m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Comédien, humoriste, imitateur, auteur, compositeur, interprète, producteur et animateur, réalisateur, écrivain, ancien président de club de rugby. J'oublie peut-être quelques-unes de ses nombreuses cartes de visite, car c'est un touche-à-tout que nous recevons aujourd'hui. Un découvreur, un passeur, un promoteur de talent aussi, dont les chansons festives sont incontournables des grandes fêtes familiales et populaires. Populaire, il l'est assurément en France et dans le monde francophone par le truchement de TV5 Monde. Critiqué aussi, car le succès est populaire à sa rançon et que cet homme cabossé par la vie n'a jamais pu ou jamais su garder sa langue dans sa poche. Patrick Sébastien se confie aujourd'hui dans S'enchaîne, un livre d'entretien avec Marc Dolisi et François Darmini chez Hugo Doc, et il sort un album de chansons à texte très éloigné en apparence de ce qu'il a fait jusqu'à présent, un album dans lequel il parle de lui et de la France, de femmes et des hommes et d'amour forcément. Ça s'appelle Entre nous, c'est chez Vagram, et vous m'en direz des nouvelles.
Et si on essayait, et si on s'efforçait d'apprendre à se connaître avant de se défier. Et si on accordait à toute différence la même compassion et la même indulgence? Et si on se disait qu'à partir d'aujourd'hui, on met d'autres étoiles dans le ciel de nos nuits, des secours, des cadeaux, des soutiens, des bienfaits pour se coucher heureux et s'endormir en paix? Et si on était beau, je veux dire beau dedans, l'esthétique à soigner de nos bons sentiments, on passe tant de temps le regard dans la glace, l'âme mérite bien autant de face à face. Et si on était jeune.
Bonjour Patrick Sébastien.
Bonjour Jean-François.
C'est vrai qu'il y a de quoi être surpris quand on découvre cet album, parce qu'on est très loin des chansons festives que j'évoquais, loin de ce que certains appelleraient votre marque de fabrique. Et quand on lit le livre de Marc Dolisi et François Darmini, à plusieurs reprises, ils expliquent que vous n'êtes jamais là où on vous attend. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça précisément le contre-pied, votre marque de fabrique à vous?
C'est ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas fait d'une pièce et que c'est ce qui a développé, moi, mon humanisme. Je suis un véritable humaniste, c'est-à-dire que je ne m'arrête jamais aux a priori de couleur, de religion, de niveau social. J'essaie toujours d'aller chercher derrière s'il y a pas autre chose. Et moi, je suis pas fait d'une pièce, mais je revendique tout, hein. C'est-à-dire que la bêtise, les chansons festives, le côté trop enthousiaste parfois, etc. La chose que j'ai, c'est que chaque fois que je me suis montré, j'ai pas essayé de maquiller ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les médias, qui maquillent. Moi, je regarde les trucs des fois, j'ai envie de faire, tu sais, comme dans les bandes dessinées, de mettre des bulles au-dessus, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent vraiment. Moi, j'ai essayé d'être le plus proche possible de mes défauts.
Et là, ce disque, c'est encore pour se rapprocher de votre public, parce que vous avez rarement été aussi intime.
Rarement, si, dans mes bouquins, il y a des gens qui me suivent dans mes bouquins depuis le livre que j'avais fait sur ma maman, qui s'appelait Tu m'appelles en arrivant, qui sont aperçus que j'étais capable d'écrire, puisque moi, ma première passion, c'est les lettres. Je voulais être prof de lettres. C'est plus difficile d'écrire les sardines que d'écrire un bouquin, je te rassure.
Hein. Ah bon?
Ah oui, c'est beaucoup plus difficile.
Pourtant, ça a l'air très simple, les sardines.
C'est parce que ça a l'air très simple. Les chansons populaires, c'est le plus difficile à écrire. J'aimerais bien en trouver une tous les matins. Malheureusement, c'est pas le cas. Parce que c'est tout bête, c'est très compliqué de trouver le petit truc qui va rester dans la tête des gens, qui va les suivre. J'écris tout, en plus, j'écris la musique et les paroles.
Mais c'est d'abord la mélodie qui reste dans la tête.
C'est un tout. C'est surtout quand on fait le genre de chanson que j'ai faite moi. Alors, il y en a qui considèrent que c'est pas de la chanson. Il y en a un qui me considérait que c'était la chanson, c'était Aznavour, à qui je parlais de ça. Je disais, oh, c'est des chansons nazes. Il me disait non. Il me disait, les chansons nazes, c'est ceux qui chantent Je t'aime comme je l'ai chanté déjà 5000 fois. Et, moi, quand je fais un truc comme ça, comme les sardines ou les serviettes, je pense à l'endroit où elles vont être écoutées. C'est-à-dire dans les mariages, etc., chez les gens. Et Aznavour aussi m'avait dit, tu chantes pas ta vie, tu chantes la leur. Ça, c'est important.
Bon, alors vous en avez parlé vous-même, alors on va se lancer, hein. On a fait un petit medley de quelques-unes de vos chansons les plus festives, Le petit bonhomme en mousse, Tourner les serviettes, Le gambadou, Les sardines, La fiesta, ou encore Ça ferait du bien à la France.
Le petit bonhomme en mousse qui s'est lancé et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite
petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. C'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. C'est lette, mais c'est bon pour la tête. Cette boîte chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates.
Ah, juste au petit jour, on ira faire
la fiesta, la fiesta.
On va lancer le vélo vert.
La fiesta, la fiesta.
Ce soir, on est les rois de la terre.
La fiesta, la fiesta.
On finira la tête à l'envers.
La fiesta, la fiesta.
Yeah. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France.
Et dans ce livre d'entretien sans chaîne réalisé avec Marc Dolezy et François Darmani, vous racontez, Patrick Sébastien, la jeunesse de chacune de cette chanson. Très souvent, d'ailleurs, ça part de rien.
Oh, ça part toujours de rien. Non, mais ce qui est marrant, c'est que je me suis fait démonter avec ces chansons par les gens bien pensants. Ça passait pas à la radio, jamais. Et aujourd'hui, je croise plein de mômes d'une trentaine d'années pour qui c'est culte. Parce que c'est leur enfance, parce qu'ils regardaient le cabaret avec leurs grands-parents quand ils avaient 9-10 ans. Et c'est marrant de voir ces chansons qui ont été tellement décriées et tellement écoutées devenir presque cultes pour des mondes. Moi, ça m'amuse énormément.
Parce que vous êtes effectivement un chanteur populaire, notamment
pas
par
chanteur,
le truchement.
Je suis un metteur d'ambiance.
Bon, un metteur d'ambiance, admettons. Par le truchement, notamment de la télévision. La télé, ouais. Ce mot populaire, c'est un mot qui n'a pas toujours bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire. Patrick Sébastien, est-ce que c'est un titre de gloire pour vous, être populaire ?
Ah, non seulement c'est un titre de gloire, mais c'est un combat quotidien. Et ce mot, il résonne bien au-delà d'un chanteur festif. La plèbe dont je viens, il n'y a jamais eu autant d'écart entre les élites décideuses et le peuple, justement.
Alors le
et ça, c'est jamais bon pour une démocratie, c'est jamais bien. Moi, je suis symbolique de ça. Là, quand on m'a jeté de la télé, on m'a jeté au prétexte que je suis populaire, que je suis un homme blanc de plus de 50 ans. C'est terrible à entendre, à encaisser en termes de discrimination, tu vois. Après, c'est comme ça, mais c'est significatif d'une époque où il y a une élite dirigeante qui a décidé ce qui était bien à penser, ce qui était bien à faire, ce qui était bien à dire. Et en face, il y a une majorité des gens du peuple, comme on dit, qui font ce qu'ils peuvent et dans lesquels je me reconnais, oui.
Alors le peuple, c'est un mot qui est revenu à la mode il y a un peu plus d'un an à travers en France le conflit des gilets jaunes. Est-ce qu'à ce moment-là, Patrick Sébastien, lorsque la grogne a monté, lorsque les ronds-points se sont remplis, vous vous êtes dit, je vous l'avais bien dit?
Ah ben oui, j'ai dit je vous l'avais bien dit parce que j'avais anticipé ça 10 ans avant. J'avais monté un mouvement humaniste. Pas un mouvement politique, parce que les médias me sont tous tombés dessus, encore une fois.
Mais la politique, c'est la vie de la cité, donc il y a
oui,
une forme de politique,
cité.
C'est la
mais
façon dont on dis, veut vivre ensemble.
Quand je dis politique, ça veut dire que c'était pas un parti, personne ne voulait être élu à rien, tu vois ce que je veux dire. C'est
Vous vouliez pas rééditer la tentative de Coluche?
Non, pas du tout, surtout que j'étais proche de ça, je sais comment ça s'est passé. Et puis tu refais pas ces choses-là. Non, simplement, j'avais fait un truc qui s'appelait le DAR, le droit au respect et à la dignité, qui sont des mots auxquels je tiens énormément. Et ce n'est que la projection de ça. Il y a 10 ans, j'avais expliqué tout ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Donc moi, je reste proche de ces gens-là. Gilets jaunes, aujourd'hui, c'est un mot qui... Il y a tellement de choses dedans. C'est compliqué. Parce que tu vas pas demander aux commerçants qui sont fait péter leur boutique de soutenir les Gilets jaunes. Et puis tu vas pas demander aux mecs qui sont fait éborgner comme des chiens par des flics d'aimer les flics. Le problème de ce truc aujourd'hui, c'est que on se met sur la gueule entre nous et que en haut, au-dessus, ils se régalent.
C'est-à-dire que le mouvement a été rattrapé par la violence, a été corrompu par une forme de violence de part et d'autre.
Oui, mais j'ai toujours été. La méthode m'a toujours gêné. Je trouve que c'est stupide de se mettre sur la gueule entre nous. ceux qui sont aux commandes de tout ça, ils se régalent de nous voir nous taper entre nous, de voir des gilets jaunes taper sur des flics qui gagnent moins qu'eux, de voir des mecs... Ils se régalent. C'est pour ça qu'il faut peut-être changer de méthode. Je sais pas laquelle, je l'ai pas. Si je l'avais, je te la donnerais. Mais moi, de toute façon, je serais toujours du côté de ceux qui subissent. Voilà.
Alors, il y a une chanson sur l'album qui est dédiée à un gilet jaune. Elle est intitulée « Personne ».
Il s'est fait voler sa colère par des casseurs, par des voyous, par des politiques en jachère qui avaient flairé le bon coup. Il s'est fait voler son sursaut par des caméras mitraillettes, par tous les snipers de l'info qui lui ont fusillé la fête. Au coin des rues, des champs de fleurs, de jonquilles et de mimosas, c'était le printemps avant l'heure. Il était si fier d'être là, mais trop de cinglés, trop de fous, trop de dégoûts, trop de dégâts. Il va falloir rentrer chez vous, ce sera pour une autre fois. Et pourtant, le temps d'un rond-point, il était devenu quelqu'un. Il a rangé son gilet jaune. Il est redevenu personne. Personne. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on lui donne ce qu'on lui doit. Il ne veut pas plus que les autres, juste ce à quoi il a droit. Ne plus jamais être un pantin, plus jamais une marionnette, celui qui paye le festin, qui se contente des miettes. Il faudra bien qu'on la fracasse, cette putain d'indifférence de tous ceux de la haute classe pour l'autre moitié de la France. Il est rentré chez lui, d'accord, il a rangé sa banderole, mais faut se méfier de l'eau qui dort, de la prochaine Carmagnole. Et pourtant, le temps d'un rond-point, il était devenu quelqu'un.
Patrick Sébastien, ouais. La chanson s'appelle Personne dans VMDN sur RFI.
C'est pour tous ces gilets jaunes qui sont. La plupart sont rentrés chez eux dès le départ. Mais ils étaient vraiment. Ils sont pas endormis, hein. Ils sont pas. Simplement, le mouvement a été détourné par plein de choses très compliquées. Donc, il y a eu beaucoup de manipulations.
Vous l'avez soutenu dès le début, mais tout ce que vous nous racontez, là, justement, depuis le début, vous l'avez dit à Emmanuel Macron, parce que vous communiquez avec lui SMS en particulier. Il demande son avis à plein de gens et vous faites partie du lot.
C'est marrant. Non, parce que j'en fais partie, oui, mais je lui donne parce que j'essaie de faire le lien entre tout ça. C'est marrant.
Et il vous répond, Emmanuel Macron?
Oui. L'autre jour,
il tient compte de ce que vous lui dites?
Ah, ça, j'en sais rien. C'est à lui à voir. Je fais tout pour qu'il en tienne compte. C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai fait une interview sur TV5. Les mecs me sont tombés dessus parce que j'ai dit que je le trouvais sincère. Je le trouve sincère dans ses convictions. Ça veut pas dire que je le soutiens. Moi, je suis pas d'accord avec sa méthode. Je peux très bien dire que Marine...
Qu'est-ce qui vous gêne dans sa méthode?
Je peux bien dire que Marine Le Pen est sincère ou que Mélenchon est sincère sans les soutenir. Non, ce qui me gêne, c'est que la différence entre le haut et le bas s'accentue. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans ce pays, et il n'y a jamais eu autant de gens qui rament pour avoir un petit peu de considération et de dignité. Et il y a des membres du gouvernement qui sont l'illustration même de ce mépris en disant, il va falloir faire comme ça, on va faire comme ça, et puis fermez vos gueules, rentrez chez vous et taisez-vous. Et donc ce mépris-là, ça, on va le payer un jour, forcément.
Il y a une chanson d'ailleurs sur l'album qui s'appelle QI de compétition, qui est une chanson extrêmement critique envers les technocrates. On pense par exemple aux fonctionnaires de Bercy, du ministère de l'économie et des finances. On a un peu l'impression que vous nous dites que finalement, non seulement ils ont rien compris au pays, mais que les vrais conservateurs, c'est eux.
Pas ils ont rien compris. Mais tu sais, on s'en prend pas aux. Il y a beaucoup de choses où on s'en prend pas aux bonnes cibles. Ça fait des années, et c'est pas de Macron. C'est pour ça que je dis aux gilets jaunes, on dit Macron démission, ok, on met qui d'autre, et de toute façon, ça changera rien.
Donc Macron et les autres, c'est pareil.
Ça fait.
Vous les mettez tous dans le même sac?
Oui, mais pas avec des qualités différentes. Mais ça fait des années que c'est pas eux qui commandent. Il y a une caste et de gens qui étaient là sous Mitterrand, sous Sarko, sous Chirac, tout ça, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des banquiers, qui sont des gens de réseau, qui sont des gens de communauté, qui ont le pouvoir, qui ont les privilèges et qui ont l'argent. Et c'est eux qui commandent. Et c'est eux qui ne veulent pas perdre ces privilèges. Et on aura beau faire ce qu'on veut, on pourra changer de président. Tant que ces gens-là feront la loi, et je vois pas qui pourrait les empêcher, eh ben, ces inégalités, continueront à rester. Maintenant, il y a des choses urgentes parce qu'on est un peu assis sur une poudrière. Et il y a un moment où il faut avoir, outre le calcul de garder ses privilèges, faut avoir conscience que ça peut péter dans la gueule de n'importe qui.
Vous comprenez ceux qui vont être en grève jeudi à propos de la réforme des retraites ?
Je comprends que les gens soient en colère. Je comprends que les gens se sentent abandonnés. Effectivement, je le comprends. Après, je fais la part des choses. C'est très dur de gouverner. C'est très dur de gouverner un pays comme la France, qui est très allergique aux réformes. Bien sûr que c'est difficile. Mais là, il y a une vraie, il y a un vrai mépris de caste. Chirac, il parlait de fracture sociale. La fracture, elle est élitiste aujourd'hui. Il y a des gens qui au-delà du social, veulent dicter leurs règles de vie à tout le monde. Et puis, se foutent du peuple. Moi, j'en suis l'illustration, hein. Le peuple, c'est des blaireaux, comme on m'a traité de blaireaux, de beauf pendant des années. Mais ces gens-là, ils existent, ok? Ils n'ont pas la même culture, on n'a pas la même... Et très paradoxalement, je suis très proche des gens de banlieue, alors qu'on n'a pas du tout la même culture, des rappeurs, des gens comme ça. Parce qu'on est dans le même sac, tous, là. On n'existe pas. Les gens qui sont sur les ronds-points, il y a eu un truc formidable, des gilets jaunes. Ils existaient, c'est ce que je dis dans la chanson. Ils se parlaient. Il pouvait dire stop à une voiture. Je pense que si on leur avait donné un petit peu plus de considération avant, ça ne serait pas arrivé. Et je crains que ça soit de pire en pire.
Vous parliez de Chirac à l'instant. Alors, dans l'album, il y a une chanson qui est vraiment intéressante parce qu'elle s'appelle Le Candidat, cette chanson. C'est un personnage qui est en campagne électorale.
Qui
serre les louches, comme vous dites, qui flatte le cul des vaches, qui s'extasie sur les gamins, qui bisouille un peu tout le monde. On se dit au début de la chanson, bon, bah, c'est Chirac, il n'y a pas de doute. Et dans la strophe suivante, on se dit, ah bah non, c'est l'anti-Chirac, celui que vous décrivez.
Ben, c'est le mec qui téléphone en même temps à sa femme en disant, qu'est-ce que je m'emmerde, je suis avec une bande de crétins. Et il y a je l'ai fait deux, trois fois sur scène avec des députés, des femmes de députés qui m'ont dit, mais c'est ça. Hein. Elles me l'ont dit en douce, elles m'ont dit, non, mais c'est ça. Et c'est vrai que, bon, le candidat, il serre les louches, c'est pas là qu'on apprend de la France, c'est pas là.
Oui, vous faites confiance aux politiques ?
Ben oui.
Parce que vous en avez fréquenté quand même pas mal,
ouais,
en particulier les présidents de la République.
Ben tu sais, ma richesse, ce que j'essaie d'avoir, c'est d'être objectif. Et pour être objectif, tu peux pas être objectif quand t'as des œillères. Il faudrait paraphraser la révolution portugaise. Il faudrait faire la révolution des œillères. C'est-à-dire que, il faudrait poser un peu les œillères. J'aime bien être dans les deux bouts pour savoir, avant de parler, c'est pour ça que je fréquente des politiques de haut niveau, puis je fréquente des bars, des bistrots avec des mecs tout à fait normaux, et là, tu peux te faire une idée un peu plus précise. Les politiques, c'est leur métier. C'est leur travail. Tu t'aperçois, moi, je fais des galas tous les soirs, les maires, sont des politiques, mais les maires sont vraiment des assistantes sociales. J'ai beaucoup de respect pour les maires.
Parce qu'ils ont un peu les pieds dans la glaise.
Voilà. Les autres en haut, il y en a certains, je regarde le gouvernement, c'est l'impression que leur métier, c'est de faire de la télé, quoi. C'est d'aller dans les médias, c'est de parler, c'est leur ego. C'est leur ego qui passe avant tout. Vouloir faire une loi parce que si t'es au gouvernement, faut exister. Puis là, déjà, on est en campagne pour les municipales, on est en campagne tout le temps. Et en attendant, les gens en bas, ils sont pas en campagne, ils sont dans la réalité. Moi, j'ai de la chance, je m'en suis sorti.
Elle marche sous la pluie qui tombe de plus en plus fort. Ou bien est-ce que c'est le torrent de toutes les larmes de son corps? Est-ce que c'est le trottoir qui fuit ses jambes qui n'avancent pas? Ou bien le reste de sa vie qui se dérobe sous ses pas? Elle marche sous la pluie. Elle marche sous la pluie, comme un zombie, comme un fantôme. Elle a tout le corps qui frémit chaque fois qu'elle croise un homme. Et ce putain de taxi blanc qui n'a pas voulu s'arrêter, parce qu'elle a le visage en sang et le corsage déchiré. Elle marche sous la pluie. Elle marche sous la pluie, qu'est-ce qu'elle va dire à son miroir ? Aura-t-elle seulement l'envie ou même la force de s'y voir? Et puis, il y a aussi les autres, tous ceux qui l'avaient prévenue, qui vont lui dire que c'est sa faute, fallait pas traîner dans la rue.
elle marche sous la pluie. Elle marche sous la pluie, elle ne sait pas bien où elle va. Même quand finira la nuit, le jour ne se lèvera pas. Plus personne ne la poursuit, mais elle accélère le pas. Autour d'elle, il n'y a plus de vie, elle n'entend que son cœur qui bat. Elle marche sous la pluie. Un banc, elle s'assoit. En face, le commissariat. Elle regarde ses bas, ses dentelles. Ceux-là vont encore dire que c'est sa faute à elle. Elle repart. Elle marche sous la pluie qui tombe de plus en plus fort. Et toujours, toujours le torrent de toutes les larmes de son corps. Son ventre lui fait mal et son âme c'est pire encore. De se dire qu'elle n'est pas coupable, mais qu'on va lui trouver des torts. Elle marche sous la pluie. Elle marche sous la pluie, elles sont des milliers chaque jour. Sans une plainte, sans un cri, à ne pas gueuler au secours. Elles sont des milliers à pleurer toutes les larmes, encore, encore. Pour des salauds en liberté qui leur ont dévasté le corps. Elle marche sous la pluie. Écoute-moi, petite sœur, faut pas garder ça pour toi. Je sais ta honte, je sais ta peur. De tout ce qu'on va dire de toi, je sais qu'il n'y a rien à faire pour réparer ce bout de ciel, mais faut hurler, faut pas se taire. Il faut crier pour toutes celles qui marchent sous la pluie, qui marchent sous la pluie. Sous la pluie.
Elle marche sous la pluie, nouvel extrait de l'album Entre nous, l'album de Patrick Sébastien, notre invité aujourd'hui dans VMDN, album qui vient de sortir chez Wagram. C'est sans doute une des chansons les plus émouvantes de l'album. C'est une chanson de l'après-MeToo, Patrick Sébastien.
Oui, et en même temps, non, c'est une chanson féministe parce que je suis un féministe, parce que...
Ça va surprendre quelques personnes, ça.
Bah, c'est comme quoi, les a priori, encore une fois. Puis en plus, la chanson a été rattrapée par l'actualité, puisque... il y a une quinzaine de jours, on a une amie qui a été assassinée par son mec, après une scène de jalousie, une amie proche. Donc c'est un problème qui me touche profondément, avec ce bémol que je trouve qu'on est, encore une fois, pas un fan de Marlène Schiappa, moi. Moi, je trouve que il faut pas monter les hommes contre les femmes. Le système aujourd'hui, tous les hommes ne sont pas des salauds.
Alors Marlène Schiappa s'en défend, hein. C'est pas du tout. Elle dit au contraire que les hommes doivent être féministes au même niveau que les femmes.
Tous les hommes ne sont pas les salauds et toutes les femmes ne sont pas des anges.
Marlène Schiappa n'a jamais dit ça.
Non, mais moi je dis que tous les hommes ne sont pas des salauds et toutes les femmes ne sont pas des anges, parce que si on entend les féministes en ce moment, c'est un peu ça. Je suis désolé, Marlène Schiappa, par exemple.
Mais il y a différents types de féminisme. Patrick Sébastien.
Elle prend la défense de, par exemple, la fille qui a porté plainte contre Polanski, là, qui est l'histoire qui remonte à 40 ans. Elle prend la défense de cette femme sans savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi, prendre la défense d'une femme, si c'est pas avéré, ça m'emmerde. C'est de la présomption d'innocence, encore une fois. Alors, c'est probablement vrai, etc. et tout, mais je trouve qu'une ministre qui prend la défense d'une nana sur des accusations qui sont pas avérées, après une fois que c'est avéré, évidemment. Et puis, il y a des choses urgentes. Moi, je vais te donner un exemple simple qui m'est arrivé. Ma petite fille, il y a quelques années, qui m'a appelé parce que le mec avec qui elle était l'a menacé au téléphone, je vais venir te tuer. Voilà, donc j'ai pris mon téléphone en pleine nuit, j'ai appelé les flics du coin, des Bouches-du-Rhône à l'époque. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, il l'a agressé? J'ai dit non, pas, ah mais on peut pas y aller, faut attendre qu'il la touche. C'est-à-dire, je suis tombé de haut, j'ai dit, attendez, il faut attendre qu'elle se fasse toucher pour que vous interveniez. Il dit, bah oui, hélas, oui. Ça, c'est un truc urgent à régler.
Parce
ça,
que cette chanson-là, elle marche sous la pluie, c'est une chanson pour encourager la libération de la parole.
Pour encourager la libération de la parole.
Il faut crier pour toutes celles qui marchent sous la pluie contre ces salauds en liberté qui lui ont dévasté le corps.
Parce qu'il y a plein de filles qui n'osent pas
parler.
Des
mots très forts, très clairs.
Bien sûr, parce qu'il y a plein de filles, des copines que je connais, qui se sont fait bousculer, qui sont tombées sur des pervers narcissiques et qui ont peur de parler. Et je leur dis, n'ayez pas peur de parler. Et puis, c'est à nous aussi à être présents, à être autour. Moi, une fois, on avait... Je me suis fait démonter par une journaliste de la bien-pensance parce que j'avais expliqué qu'on avait on avait réglé le compte de mec un peu violemment qui fracassait sa nana. On m'a dit on n'a pas le droit de faire sa justice soi-même. Mais en fait, en tout cas, ça lui a évité de continuer. On l'a pas tué, je te rassure.
Ouais, mais parler, c'est une chose, Patrick Sébastien. Encore faut-il être cru.
Oui, mais encore faut-il dire la vérité.
Oui, mais ça, on n'en sait rien.
Parce que il n'y a pas dans toutes celles qui accusent, il n'y a pas que des vérités, évidemment. Donc tant qu'on n'a pas la preuve, mais par contre, il faut oser parler. Bien sûr qu'il faut oser. Et puis il y en a des preuves. Je veux dire, il y en a qui arrivent avec. J'ai eu combien de copines avec des bleus en me disant je suis tombé dans l'escalier. Tu tombes pas dans l'escalier comme ça. Moi, c'est quelque chose. C'est toute violence, de toute façon. Moi, il y a la violence faite aux femmes, mais c'est toutes les violences sur les enfants, la violence générale. On est en train de pleurer autour de la violence, alors qu'on cautionne à longueur de journée dans les médias de la publicité subliminale pour la violence. Les réseaux sociaux sont d'une agressivité. J'ai une fille de 12 ans qui est sur les réseaux sociaux. Je vois ce qui s'envoie. La télé. On est responsable aussi. La télé, ce qui est le plus regardé, c'est les séries où il y a des meurtres, où il y a des crimes.
Ça ne date pas d'hier, ça, Patrick Sébastien. Moi, quand j'étais enfant, il y avait déjà les dessins animés japonais qu'on considérait comme des parangons de violence.
Bien sûr, mais là, si je peux me permettre, la violence, elle est de plus en plus exacerbée. Il n'y a pas de contrepoids. Pour moi, je dis pas, mais je pense qu'on est chacun de nous est responsable de cette violence-là. C'est nous qui mettons la télé, qui aimons ça. Et puis dans la vie de tous les jours, les débats qu'on voit à la télévision, je sais pas si ça existait comme ça il y a des années. Il y en avait peut-être un ou deux.
Moi, au droit de réponse avec Pollack, c'était
y a eu un débat au droit de réponse, mais il n'y avait pas cette agressivité permanente, ce tribunal permanent. La télé est devenue les médias sont devenus des tribunaux. Il y a des mecs autour d'une table. Ça me fait penser à mes villages d'enfance. Où il y avait 3 petits vieux sur un banc et 200 mecs qui bossaient. Aujourd'hui, t'as 200 mecs sur le banc et 3 qui bossent et 200 qui les jugent. Et on juge tout. C'est-à-dire que ce soit la cuisine, la danse, les mariages, les chanteurs, le sport, la politique. On a des juges en permanence. Et avec de l'agressivité. Si tu regardes le zapping d'une journée de télé, les mots les plus employés que je vois, et sur les réseaux sociaux et partout, c'est clash, coup de gueule. Buzz. C'est que des trucs agressifs. Et après, on va se plaindre que nos enfants se battent dans les cours de récré, ne respectent pas les profs, etc. Il y a peut-être... moi, je prône la bienveillance depuis tout le temps. Donc, je me passe pour un con, parce que c'est pas à la mode, la bienveillance. Je continue à prôner la bienveillance, parce que je pense que c'est l'avenir. On va passer par le chaos, c'est obligatoire. Mais après, on va être obligé de revenir à la bienveillance. Donc, ça veut dire que je suis à la fois... pessimiste et optimiste. Pessimiste pour le futur proche, parce qu'on va être obligé de passer par le chaos par où on est passé. Et après, on va se réveiller et on va dire « Mais peut-être qu'il faudrait revenir à une bienveillance mutuelle, parce que sinon, on va s'éliminer les uns les autres. »
Alors la télé, on va y revenir, hein. Patrick Sébastien, vous avez passé 23 ans sur France 2, après 12 ans sur TF1, quelques mois sur la 5. Donc la télé, c'est fini pour vous?
C'est derrière moi, oui. C'est
vous n'y retournez pas. Si on vous appelle demain, on vous dit « Patrick, tu vas nous faire une petite soirée sympa, une émission spéciale. »
Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Mais vous ne l'excluez pas.
Je pense que si tu jettes ton chien un coup de pompe de chez toi, il va pas revenir dans la maison. Hein.
Oui, mais c'est pas les chaînes qui manquent aujourd'hui en France.
Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie d'être non plus. Moi, j'ai bien donné à la télé, c'est très sympa, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Au contraire, j'ai eu le record d'audience de la télé, sur après quoi tout le monde court, c'est moi qui l'ai.
Oui, et le grand bluff créé, jusqu'à la finale du mondial de foot 98.
En dehors du foot, voilà. C'est nous qui avons ça. Mais en dehors de ça, j'ai pas honte des émissions. On a fait tenir une émission pendant 20 ans, le plus grand cabaret qui accueillait les plus grands artistes du monde. Moi, je veux bien, on m'a toujours reproché d'être soi-disant vulgaire. Si vous me trouvez une once de vulgarité dans le plus grand cabaret pendant 20 ans, faut me l'amener. Parce que la vulgarité, à la télé, j'en vois. Et puis, on a créé des choses, on a créé des émissions. Les années bonheur, on a relancé les chanteurs des années 80. Et puis, on a mélangé, surtout, dans les années bonheur, on mélangeait des vieux chanteurs. On mélangeait Adamo avec M. Pokora, avec Maître Gims, avec Soprano, avec... je trouvais qu'il y avait, bon, moi, j'aimais bien faire ça. Je faisais bosser mes musiciens, mes danseuses. On est rentré dans une autre télé. On est rentré dans une télé beaucoup du profit. C'est-à-dire que les émissions se font, avec peu de moyens. Faut pas être dupe. Nous, Le cabaret, je suis désolé, quand tu fais venir 14 numéros du monde entier avec le fret, avec les voyages, avec les machins, ça coûte. Et puis il faut les payer, les artistes.
Oui, mais vous-même, Patrick Sébastien, quand vous avez dit oui à Berlusconi, c'était peut-être aussi parce que c'était une télé du fric, non?
Quand j'ai dit oui à Berlusconi, j'avais fait des télés un petit peu sur TF1 et on m'a proposé. C'était extraordinaire ce que nous proposait Berlusconi, parce que Berlusconi nous proposait de l'argent. Quand t'as 35 balais et qu'on te propose de l'argent, beaucoup, tu craches pas dessus. C'est surtout d'où je viens, tu vois. Et puis surtout, ce qui était formidable, c'est qu'il nous proposait chaque semaine une émission de 2 heures avec la totale liberté éditoriale. C'est-à-dire, il nous a dit, vous faites ce que vous voulez dedans, du moment que vous ne troublez pas l'ordre public. Ça, c'est fini, ça. Ça n'existe plus. Donc c'était un laboratoire, en fait, formidable. Moi, j'ai un très bon souvenir de Berlusconi.
Mais vous n'êtes pas resté très longtemps sur la 5, pour
ça. Ben, c'est la 5 qui n'a pas duré longtemps. C'était pas notre faute à nous, c'était les relais qui n'existaient pas. Il a voulu créer son truc, il s'est fait un petit peu avoir dans l'histoire. C'est pas très grave pour lui. Mais le personnage que j'ai croisé, moi, à l'époque, ils ont été d'une droiture... d'une vraie droiture, que j'ai peu rencontrée, qui n'existe pas aujourd'hui.
Patrick Sébastien, vous l'avez attrapé comment, le virus de la télé?
En ne l'ayant pas, quand j'étais petit. Tu sais, les gens, les mômes d'aujourd'hui, ils naissent avec l'écran, hein, ou un écran de portable, ou nous, on n'avait pas d'écran, et tant mieux. J'aimais bien, moi. Je l'ai attrapé en regardant à travers la vitrine du marchand d'électroménager qui était en face de chez moi.
À Juillac, en Corrèze.
Cette image en noir et blanc, en me disant, c'est merveilleux d'être là-dedans, quoi. Ça devrait être bien d'être là-dedans. J'ai attrapé. C'est pas le virus. Puis après, j'étais avec, comme les gens de ma génération, les années 70, on ne regardait pas beaucoup, hein, la télé. Il y avait 3 chaînes, on regardait les variétés, voilà. Pour nous, c'était les Carpentiers, les émissions de Jacques Martin à l'époque de fête. Tu sais, quand tu vis dans un milieu où il faut bosser, parce qu'il fallait vraiment bosser, c'était la soupape, c'était une fenêtre sur le monde. Il y a Pierre Belmar qui a très bien défini l'évolution de la télé. La télé, à l'époque, c'était une fenêtre sur le monde. Alors la fenêtre, elle existe toujours, mais la caméra, elle est plus dedans pour regarder dehors, elle est dehors pour regarder dedans. Et la caméra, maintenant, filme dedans. C'est-à-dire filme ton intimité.
Et vous, dans la télé, vous avez mis du spectacle vivant. On sent dans votre émission l'esprit de bande, l'esprit de troupe. Il y a des nouveaux talents, hein, qui ont éclos. Ouais, pas tous les citer. Charlie Aidino, ouais. Jeff Panaclock, Dupontel, Dujardin.
Ouais, Danny Boone.
Il y en a d'autres, Danny Boone.
Mais au-delà de ça, tu sais, j'aurais jamais imaginé, moi, qu'en passant sa vie à essayer de faire du bien aux gens, que ce soit dans les imitations, à télé et tout, tu te fasses autant cracher sur la gueule. Parce que c'est que ça que j'ai fait. J'ai pas commis de crime, j'ai pas dépassé la ligne jaune j'ai pas prôné des trucs, qui étaient nocifs.
Oh, il y a eu l'affaire Cassé du Noir, quand même.
L'affaire Cassé du Noir,
c'est un souvenir douloureux.
C'est une énorme saloperie. Parce que aujourd'hui, avec le recul.
Alors, Cassé du Noir, attendez, on va peut-être expliquer.
Ah, je vais expliquer. Mais il faut que ce soit moi. Il faut que ce soit moi qui explique. Parce que j'ai tellement entendu de conneries là-dessus. Moi, j'ai fait un jour une caricature de Jean-Marie Le Pen. J'insiste sur le mot, hein. J'ai fait une caricature de Jean-Marie Le Pen qui chantait « Je vais casser du noir ». C'est pas moi qui chantais.
Sur l'air de Patrick Bruel, voilà. Casser la voix.
C'est pas moi qui chantais. C'était.
Le personnage de Jean-Marie Le Pen.
Ce qui, aujourd'hui, ne choquerait personne. À qui je faisais dire, on va casser du noir. C'est pas moi qui le disais, c'était ma caricature. On m'a condamné, moi, pour incitation à la haine raciale.
Parce qu'on n'a pas le droit de faire ces critiques-là, même quand il s'agit de caricature.
Le jugement est terrible. Patrick Sébastien n'est pas raciste, il n'a pas eu l'intention de l'être, mais les Français ne comprennent pas le deuxième degré. C'est d'une connerie affligeante. Et surtout, ce que je voulais te dire, c'est que cette caricature que j'ai faite, les plus virulents avec moi, ça a été les mecs de Charlie Hebdo qui ont tout fait pour me faire jeter parce que j'avais fait une caricature. Alors il y a un moment où il y a deux poids, deux mesures. Moi j'en avais parlé derrière avec mon ami Volinsky parce que c'était un ami qui ne le savait pas. Il a dit mais on est fou, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Hélas, il a eu raison. Ça c'est une vraie saloperie qui peut faire jurisprudence. Comment peut-on condamner quelqu'un pour les propos qu'il tient qui fait tenir à sa caricature en les lui attribuant à lui. C'est comme si tu condamnais Chaplin pour avoir parodié Hitler. C'est un truc de fou. Avec le recul aujourd'hui, mais c'était dans le bon ton de l'époque parce que j'étais un clown sur TF1.
Donner une parole et ne pas la reprendre. Revenir à l'école pour le plaisir d'apprendre. Pardonner à l'ami qui t'a volé l'amour. et te sentir détruit sans crier au secours. Accepter d'être moins que ce que t'as rêvé et n'être que témoin à défaut de premier. Et ne gagner d'argent que ce qu'il te faudrait. Avoir suffisamment, c'est déjà bien assez. Voilà, petit, voilà, c'est mon seul héritage pour embellir ta vie quand la mienne s'en va. Voilà, petit, voilà, la fortune d'un sage. Tout ce que j'ai appris, c'est mon cadeau pour toi. Ne pas te laisser faire par les marchands de vent qui plantent des chimères aux veines des enfants. Ne pas prendre trop vite l'aiguille compte tant. Ce poison ne profite qu'à celui qui le vend. Et respecter les filles et respecter les vieux. Ne pas croire ce qui brille si ce n'est quelques yeux. Et ne jamais haïr le plus puissant que toi. Et ne pas trop en dire lorsque tu ne sais pas. Voilà, petit, voilà, c'est mon seul héritage, ce qu'il reste de moi, mon unique trésor. Voilà, petit, voilà, la fortune d'un sage. Ce que je laisse là vaut bien plus que de l'or. N'avoir de religion que celle de l'amour. Refuser l'illusion des églises en secours qui derrière leur drapeau cachent trop de fusils. Pas un seul Dieu ne vaut le sang de ses petits. Et ouvrir sa maison à celui qui a froid. Ne jamais faire d'affront au plus petit que toi. Si tu es roi un jour, surtout rappelle-toi, c'est du plus haut des tours qu'on tombe le plus bas. Voilà, petit, voilà, c'est mon seul héritage. À oublier l'amour, j'ai raté trop de trains. Voilà, petit, voilà, la fortune d'un sage. Quelques mots de secours pour pas manquer le tien. J'ai donné ma parole, puis je l'ai reprise. J'ai oublié l'école, adoré les églises, et j'ai souffert tellement de n'être que passant. Jamais assez d'argent, jamais assez de temps. J'ai insulté les uns et crucifié les autres. Il ne me reste rien et personne à ma porte. Ne laisse pas l'orgueil diriger tes envies, ou bien tu seras seul à la fin de ta vie. Voilà, petit, voilà, c'est mon seul héritage. Je n'ai plus rien à moi, je ne laisse que ça. Voilà, petit, voilà, la fortune d'un sage qui voudrait que tu sois ce que je n'étais pas.
Voilà, petit, voilà, un piano, la voix et les mots de notre invité Patrick Sébastien, extrait de son nouvel album Entre nous chez Wagram. Alors cette
c'est
chanson,
mon préféré.
Voilà, cette chanson, c'est une sorte de quoi, de viatique, de résumé de ce à quoi
oui,
vous croyez.
Oui, pas forcément. C'est pas forcément personnel. C'est la parole de quelqu'un qui dit à son enfant ce qu'il a envie, ce que lui n'a pas réussi, qu'il a envie que l'autre soit. Mais c'est vrai que dans ces paroles, il y a beaucoup de choses que je passe en permanence à mes enfants, parce que la transmission, pour moi, c'est ça. C'est de laisser plus à ses enfants des valeurs que éventuellement de l'argent. L'argent, c'est bien, mais c'est des valeurs. Alors laisser, je me bats tous les jours avec mes mômes pour. C'est très difficile en ce moment. En plus, j'ai la chance d'avoir des mômes dans toutes les générations. Mon grand qui est mort hélas en moto aurait 49 ans là aujourd'hui, et l'autre en a 39. J'en ai un autre qui en a 27. J'ai ma fille qui a 12. Donc je suis en contact j'ai été en contact avec toutes les générations, et je vois glisser les choses. Et je me bats pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils restent dans le respect de l'autre et oublier les rancunes, les vengeances. C'est pas facile.
Voilà, petit, voilà. Vous disiez à l'instant que c'est votre chanson préférée sur ce CD. C'est vraiment l'exemple de chanson à texte. Il y a un petit côté un peu Brel dans ce que vous avez écrit. Vous avez été nourri comme ça de chansons françaises, de chansons à texte?
Bien sûr, j'ai été nourri. Moi, j'ai été nourri de Brassens, de Brel, d'après de Lavilliers, de Cabrel, de Nougaro, de tous ces gens-là, de Ferré, de mots. Alors aujourd'hui, on a l'impression de dire des gros mots si on dit ça. Mais je pense que si Gainsbourg et Brassens avaient fait The Voice, on les aurait pas pris, ça c'est sûr. Et Brel non plus. Brel, il avait arrêté la chanson en disant « Je m'en vais parce qu'ils vont finir par faire des chansons pour chiens ». Alors, moi, j'ai rien contre les... J'ai pas de ségrégation sur les chansons, sur le rap, sur les... Mais simplement, c'est pas mal non plus d'écouter les textes. Mais tu sais, les mômes de 25 ans, aujourd'hui, moi j'en connais plein qui sont accrochés déjà pour faire la fête aux chansons des années 80, et puis qui écoutent des mots, qui justement
Mais il y a des rappeurs qui sont réellement des poètes.
Big Flo et Oli, j'écoute une chanson qui s'appelle Salope, qui est magnifique, qui est une chanson sur la bêtise des garçons, que je trouve très très belle. Il y a des rappeurs que je trouve très très bien. Après, il y a des rappeurs que je trouve nazes, parce que ce qu'ils disent... véhicule des choses que j'ai pas envie d'entendre. Mais c'est marrant parce que j'ai parlé avec des mecs de Secteur 1 à un moment et je leur disais, mais pourquoi vous chantez des chansons sur la haine, tout ça? Parce que ça se vend. C'est aussi bête que ça.
Vous signez vous-même les textes de l'album, aussi. Vous co-signez les musiques avec des potes Entre nous. Alors c'est marqué Patrick Bouteau,
le groupe
Entre nous. Donc le groupe s'appelle Entre nous, c'est le titre de l'album. C'est
en
qui
fait,
Entre nous?
Je suis mélodiste et j'apporte à mes musiciens les mélodies. C'est moi qui construis tout. Mais les musiciens m'apportent chacun leur patte. Ils sont quatre garçons. Ils s'appellent Pascal Miconnet, Alexandre Garouste, Laurent Morel et Laurent Fournier, parce qu'il y a deux Laurents. Et on a fait ça dans un petit studio qui se trouve à Sérignan, à côté de Béziers. Je suis un passionné de jazz, et on a voulu que ce soit très intime, on a voulu que la voix soit devant, on a voulu ne rien rajouter d'artificiel. Et ils m'aident, ils apportent chacun leur pierre à l'édifice, c'est pour ça que je leur fais cadeau de la moitié de la musique. Qu'on partage la musique. Normalement, c'est moi qui fais la musique, mais bon.
Voilà. Et puis les mots, donc, ils sont mots, de vous. Alors, vous évoquez dans le livre, là, s'enchaînent vos lectures. On apprend, par exemple, que vous adorez Rostand et Cyrano de Bergerac.
Oui. Quand tu aimes les mots, tu es obligé d'aimer Rostand. Tu es obligé d'aimer Pagnol. Mais j'ai grandi aussi avec beaucoup avec Zola. Parce que quand j'étais en fac, je travaillais beaucoup sur Émile Zola. Je conseille un livre aux gens de Zola qui connaissent pas très bien, qui s'appelle Paris. Qui est un député qui se permet de dire la vérité, c'est très actuel. Et puis les destins de Zola me plaisent, ces destins où ça monte, puis ça s'écroule d'un seul coup, ouais. Ça arrive très très souvent. J'ai toujours été passionné par ça, puis dans mes études de philo, il y avait des choses qui me plaisaient bien. Bon, j'ai essayé de lire Kant, mais j'ai bloqué quand même, parce que c'est, il y a un moment où je veux bien, il faut être très intelligent pour comprendre tout, puis j'aime bien tout comprendre.
Ouais. Mais la figure tutélaire de Patrick Sébastien, c'est Frédéric Dard.
Pour plein de raisons.
Le créateur de San Antonios, c'est vrai qu'il y a la photo de Dard au-dessus de votre bureau.
Oui, et puis avec des citations de lui, dont une que j'aime beaucoup, c'est avec les gens intelligents qu'on déconne le mieux. Et puis surtout sa phrase de chevet, qui est la mienne, qui termine son autobiographie, qui est « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je recommencerai plus jamais ». J'ai toujours trouvé cette phrase magnifique, puis j'ai eu la chance d'être son ami, j'ai la chance que son épouse m'ait offert sa machine à écrire, qui pour moi est une vraie relique, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et puis on a des points de similitude, c'est-à-dire que San Antonio, qui a fait un succès phénoménal au niveau des ventes, pour les bien-pensants, c'était de la littérature de gare. C'était rien, quoi. C'était grossier, c'était vulgaire. À part que nous, les mômes, et je sais qu'il y a plein de femmes, de fans, dont Antoine Decaune, Renaud, tout ça, nous, on lisait, bien sûr, la grossièreté, mais on lisait entre les lignes. Il y avait des passages où il s'échappait pendant une page pour parler d'humanisme, pour parler de valeurs. Et c'est ça qui nous intéressait. Nous, on avait repéré ça. Et aujourd'hui, ça, c'est étudié dans les facs. Donc, on est heureux. Puis c'est quelqu'un qui avait besoin d'amour et qui en donnait un maximum. J'ai rarement vu une personne aussi humaniste, aussi généreuse. J'ai pas le temps de le raconter peut-être, mais il y a la chose qui le résume le mieux, je sais pas si je peux.
Allez-y.
Il y a quelqu'un qui avait kidnappé sa fille, tu sais. C'est qui avait demandé une rançon, c'était terrible. Si la fille ne s'enfuit pas, il la tue. Donc tu imagines le traumatisme pour la petite. Et ce mec est passé au tribunal. Il a fait un mal fou. Et j'ai dit à Fred, j'ai dit, mais tu devais détester ce type. Il m'a dit non, je lui ai demandé pardon. Je sais pas, tu me dis là. Et effectivement, au tribunal, il s'est tourné vers ce mec. il lui a dit, je vous demande pardon, parce que j'ai tellement d'amour pour la race humaine que j'aurais jamais imaginé avoir autant de dégoût pour un être humain. Donc je vous demande pardon. Ça, c'est quelque chose qui me touche, voilà, parce que c'est pas une réaction normale, parce que c'est humaniste et c'est beau.
Vous êtes un jouisseur, un amateur de bon vin, Patrick Sébastien, de bonne chère, de fiesta en tout genre. Vous avez, oui, vous continuez cul, à brûler la vie par les deux bouts.
Tu peux employer les mots de cul, de sexe, de bons moments, de coucher de soleil, aussi de poésie.
Je n'essaie pas vis. De survivre, mais de vivre.
Bien sûr, que je vis. Puis c'est tellement court. C'est tellement court. Tu vois, je me retrouve là à 66 ans. L'autre jour, j'ai calculé que j'avais 70 piges dans 4 ans. C'est pas possible que ce soit passé aussi vite. Et tant mieux. Mais je sais relativiser les choses. Ce qui me manque, c'est... j'en ai beaucoup parlé avec Delon. C'est un peu le même... c'est tous ceux qui sont partis. C'est pas tellement le temps qui passe en lui-même. C'est tous ceux qu'on a plus à côté de nous. Ça me manque énormément.
Vous y pensez tout le temps ?
Ouais,
à la mort ?
Non, pas à la mort. À celle des autres. À ceux qui sont partis avant moi. Moi, c'est pas grave. Ça va arriver. Là. Puis surtout que ça peut arriver... À mon âge, ça peut arriver dans 5 minutes comme ça peut arriver dans 20 ans. Mais ça peut arriver dans 5 minutes, c'est la logique. Et non, c'est les gens qui me manquent. Moi, j'ai perdu tous mes vrais proches. Ma liste de favoris dans mon téléphone, je les efface au fur et à mesure, en plus.
D'ailleurs, vous parlez beaucoup dans le livre de votre fils. Vous en avez déjà dit un mot il y a un instant. De votre mère, ouais, aussi, c'est vraiment le personnage tutélaire, le personnage qui vous accompagne encore aujourd'hui.
Bah parce qu'on a grandi tous les deux, parce que ça m'a fait comprendre tous les racismes, toutes les exclusions. On a grandi tous les deux. Elle travaillait à l'usine. Elle a bossé jusqu'au 12 novembre et puis elle a accouché le 14. Et parce que son patron lui a dit, allez, fous-moi le camp, va accoucher. Et puis on a grandi sans thunes, sans argent, mais avec un amour infini et avec une bagarre. Bâtard à l'époque dans mon village, c'était pas comme bâtard aujourd'hui, hein. C'était vraiment des choses à part, hein. Et j'en ai pris plein la gueule pour ça, et j'ai su rester bâtard toute ma vie, et je le reste encore aujourd'hui. Ce qui m'est arrivé à la télé, c'est la même mise à l'écart. Donc on se fait à ça, et effectivement, la figure tutélaire que j'ai toujours posée sur mon épaule, et qui me dit de ne pas m'énerver, et qui me dit de pardonner, c'est ma mère, parce qu'elle a fait ça. Et finalement, ça nous a pas mal réussi, parce que on a réussi à monter socialement, alors qu'on aurait dû rester en bas.
Merci beaucoup, Patrick Sébastien. On va se quitter avec « J'irai pas à mon enterrement ». C'est une chanson qui vous va bien.
Je préfère rester dans la télé et regarder les hommages qu'on va faire.
Ceux du fond de la liste qui seront venus en promo uniquement pour la photo. Ceux qui m'aimaient pas, qui cacheront leur joie, qui brancheront déjà ma veuve pour la soutenir dans l'épreuve, la peau. J'irai pas à mon enterrement, ça me fait trop de peine, je veux pas voir ça. Les chrysanthèmes, j'aime pas tellement la mort, ça me file de l'eczéma. J'irai pas à mon enterrement, ça me fait trop de peine, je veux pas voir ça. Je veux pas faire pleurer tous ces gens qui valaient peut-être bien plus que moi.
Merci beaucoup, Patrick Sébastien, d'être passé nous voir. L'album Entre nous est disponible, je le rappelle, chez Wagram, et puis le livre s'enchaîne avec Marc Dolisi et François Darmini chez Hugo Doc.
Ce que j'ai sur l'album surtout, c'est aller faire un tour dedans, voilà. Si vous aimez pas, c'est pas grave, mais au moins ne pas juger sans l'écouter.
Merci beaucoup, à demain avec la conférence des objets, c'est du théâtre, c'est une pièce de Christine Montalbetti, actuellement au studio de théâtre de la Comédie Française, et vous m'en direz des nouvelles.
Tout seul, donc j'ai décidé à l'unanimité que je mourrai une autre fois, en tout cas pas ce jour-là. J'irai pas à mon enterrement, oh non.
En sol majeur.